Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
C'était important de pouvoir le voir,
le rencontrer,
lui dire au revoir, lui dire pardon.
C'est une épreuve pour laquelle personne n'est vraiment préparé. Mmh. Et cette douleur partagée, personne n'en parle.
Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense.
Ouais, il doit vivre un enfer.
Pourquoi tu m'as jamais aimé ?
T'aimer ? Mais qui a dit que je dois t'aimer ?
C'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité.
Bienvenue dans mon cabinet. Je suis Mathilde Bouichou, psychologue clinicienne spécialisée en périnatalité. J'accompagne des femmes, des hommes, des futurs parents, des couples aussi, autour de toutes les questions qu'ils peuvent se poser sur leur parentalité, leur devenir parent. Ça peut aller lorsqu'ils s'interrogent sur leur désir d'enfant, aux difficultés qu'ils peuvent rencontrer pendant la grossesse, aux questions d'infertilité, au parcours de PMA, et puis aussi autour de toutes les questions éducatives qu'ils peuvent se poser avec leurs enfants. Pour cet épisode de parentalité, nous avons choisi comme sujet le deuil périnatal. Sujet d'actualité en quelque sorte, puisque ce jeudi 15 octobre est la journée mondiale de sensibilisation au deuil périnatal. Journée qui a pour but d'informer et de nourrir la réflexion sur ces situations particulières de nourrissons morts avant ou peu après le moment de l'accouchement. Pour soutenir les parents et questionner la place que notre société donne à ses enfants, pour nous parler de ce sujet difficile, je reçois aujourd'hui Marie dans mon cabinet.
Bonjour Marie.
Bonjour.
Je vous en prie, installez-vous.
Alors Marie, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui ?
Alors, je viens vous parler de la perte d'un enfant à 5 mois et demi de grossesse. Mon mari et moi, nous avons décidé de faire une interruption médicale de grossesse suite à... On a eu une grossesse compliquée et voilà, c'était un bébé qui avait beaucoup de problèmes. Et donc, on a fait ce choix pour lui.
Qu'est-ce qui s'est passé avant que vous preniez cette décision ? Qu'est-ce qui vous a amené, du coup, à prendre cette décision ?
Dès l'écho de datation... Il y avait un petit problème, mais qui n'était pas forcément grave. Donc j'ai eu un suivi très médicalisé. Pendant 5 mois et demi, j'ai eu une succession d'échographies avec des révélations à chaque échographie. On a vu beaucoup d'experts pour chaque organe. Et donc le cœur, ça pouvait être opéré, mais associé à peut-être autre chose. Alors ça pouvait signifier qu'il y aurait un autre problème, peut-être neurologique par la suite. Une petite chose qui pouvait être traitée, mais associée à cette autre petite chose, ça crée un problème, puis cette petite chose. Et voilà, au point qu'à 5 mois et demi, on a considéré que ça allait peut-être être très très compliqué, qu'on savait même pas si son cerveau serait
fonctionnel.
Mmh. Donc c'était une décision très dure, mais qu'on a prise parce qu'on n'en voyait pas le bout non plus avec ce petit chou qui n'aurait pas eu une vie très heureuse. On a écouté aussi les médecins et les médecins étaient assez formels sur sa capacité à pouvoir un jour vivre une vie qu'on rêve pour nos enfants, c'est-à-dire courir sur la plage, avoir des amis et sortir de l'hôpital après sa naissance, quoi. Et c'est a priori pas le cas, donc voilà.
C'est ce pronostic vital engagé pour votre enfant qui vous a amené à prendre cette décision ?
Il aurait forcément eu une opération au cœur à la naissance. Ce qui est sûr, c'est qu'il aurait eu besoin des tuyaux partout pour respirer, peut-être pour manger, peut-être pour plein de choses. Et que donc, est-ce qu'on peut dire qu'il aurait peut-être réussi tout seul, mais je crois qu'il n'aurait pas réussi tout seul. Et en fait, c'était ça qu'on voulait pas pour lui. C'était dire à ce petit chou, c'est super, regarde la vie, t'as des tuyaux qui sortent de partout et tu peux rien faire comme un bébé normal et tu vas souffrir. C'est surtout ça aussi, c'est-à-dire tu vas souffrir, si on va plus loin, tu vas souffrir. Et c'était pas ce qu'on souhaitait, c'est pas ce qu'un parent souhaite pour son enfant.
Bien sûr. Une fois que vous avez pris cette décision, qu'est-ce qui s'est passé? Comment les choses se sont passées?
C'était assez compliqué parce que il y a tout un protocole. Et ce protocole impose d'attendre, si ma mémoire est bonne, une dizaine de jours, parce que évidemment, on ne fait pas ce genre de choses à la légère. Et donc, il faut aussi que le corps médical valide la décision des parents. Et donc, il y a un délai. Et puis, il y a un délai, si ma mémoire est bonne, je crois même de rétractation aussi, parce qu'on aurait pu aussi décider finalement, et jusqu'à la dernière minute, presque, on aurait pu dire non, on va essayer, quoi, on le garde. Donc, mais à partir du moment où nous, avec mon mari, on avait pris cette décision, ensuite il y a 10 jours, et là c'est les 10 jours les plus longs, parce qu'en fait, vous savez que vous donnez plus de chance à votre enfant. Il est toujours,
toujours là
et il bouge toujours. Et ça, c'est très difficile. Alors, c'est difficile pour un papa. C'est très compliqué pour une maman, forcément, parce que c'est elle qui porte l'enfant. Puis, il y a ce moment où vous allez à l'hôpital 2 jours avant et où vous prenez, en fait, des médicaments pour lancer l'accouchement. Et là aussi, il y a un côté un peu... vous rentrez dans un process. Et le moment où vous prenez cette pilule, vous savez que ça y est, c'est lancé, quoi. C'est pas évident non plus. Après, vous avez, c'est partagé parce qu'il y a une volonté de se soulager aussi, donc d'arrêter cet enfer et un peu ce calvaire pour la maman. Mais en même temps, ça va quand même, ça prend quand même du temps. Il y a toute cette question de temps qui est compliqué quand on fait ce choix. Pour aller jusqu'à prendre cette décision, c'est beaucoup de temps, beaucoup de réflexion, beaucoup d'échanges. Et quand on l'a prise, on a encore un laps de temps. Et après, il y a le temps de la reconstruction, quand on est arrivé au bout de la démarche et qu'on a accouché, quoi.
Bien sûr. Comment il s'est passé votre accouchement ?
J'allais dire merveilleusement bien. Non, en fait, ça s'est surtout... Si, ça s'est très bien passé parce que j'ai eu la chance d'être très, très bien entourée avec des sages-femmes, des amours. Et donc, ça s'est... C'est un peu dur, là. Pouf, pouf. Je reprends. Ça s'est bien passé. Après, on est pris en charge très tôt le matin. On est traités comme des parents. J'ai été traitée comme une maman qui va accoucher, je le sais, puisque j'ai eu une fille avant et j'ai eu un fils après. Donc je suis arrivée, alors évidemment pas avec le même enthousiasme, mais j'ai été prise en charge comme n'importe quelle autre maman qui accouche.
C'était important ça pour vous ?
C'est primordial, parce que je restais une maman qui allait accoucher de son enfant, donc... pas dans la meilleure des conditions, mais quand même, c'est rassurant de pas être avec les jambes cassées et les infirmiers qui traitent une appendicite, quoi. Enfin, non, on a besoin d'avoir des sages-femmes, des gynécologues. C'est un accouchement en tout cas. Et donc après, vous vous attendez comme un accouchement, même s'il a été déclenché. Et ensuite vient le temps de l'accouchement, où tout se fait dans un silence. J'essaie de me remémorer, mais s'il y a quand même une chose qui est un peu difficile, c'est que j'avais oublié ce détail qui n'en est pas un, c'est qu'on prend les médicaments pour déclencher l'accouchement 2 jours avant, mais le matin, par bienveillance pour cet enfant, on arrête le cœur du bébé dans la matinée, et ensuite vient le temps de l'accouchement. Naturel, enfin
par voie basse,
mais là c'est musculaire, enfin c'est donc finalement il y a aussi ce petit temps qui est pas évident parce que votre bébé il est parti mais il est toujours en vous, donc c'est pas évident. la gynécologue qui, et le médecin, qui sont deux. Ils arrivent dans une... c'est un moment qui est complètement unique et qui doit être très compliqué pour les médecins aussi, parce qu'ils donnent la mort de manière...
volontaire
et décidé et sur un être vivant, donc ça doit être quelque chose d'éprouvant pour eux, et en fait on le ressent et donc on sent qu'on est ensemble à ce moment-là, qu'on vit quelque chose d'unique, de tragique, et on le fait ensemble. Et le fait de se sentir épaulé et qu'on n'est pas en train de faire un petit geste comme ça, anodin, parce qu'ils en font malheureusement beaucoup, et que je suis la 150e dans sa carrière, là, on est tous uniques, et cet enfant, il est unique, et donc il mérite le mieux. Et donc le mieux, c'est effectivement ne pas faire en sorte qu'il souffre au moment de l'accouchement, qu'il puisse partir en toute sérénité, quiétude, s'il a une conscience à ce moment-là. Mais on considère que à partir du moment où on nous explique qu'un enfant va commencer à entendre la voix de son père, la voix de sa mère, entendre des bruits et tout ça, des sons, et se familiariser avec l'univers dans lequel il sera quelques mois plus tard. Donc, en fait, ça veut dire que à 5 mois et demi, peut-être qu'il y a déjà peut-être conscience de certaines choses. Et donc c'est un enfant, un être vivant.
En tout cas, il a des ressentis.
Il a des ressentis, voilà, et donc on le considère. Et donc. Voilà, donc dans le protocole, il passe par l'arrêt du cœur avant, puis vient après le temps de l'accouchement par voix basse. Évidemment, ça a été une question qu'on a posée, c'était pourquoi... je pensais avoir une césarienne et je voulais avoir une césarienne au début, quand les choses ont commencé à se mettre en place et qu'on avait pris cette décision. Et en fait, les médecins ont dit... une césarienne, c'est pas anodin, c'est un acte chirurgical et qui aura peut-être des conséquences plus tard si vous avez un autre enfant. Donc ça, c'était un point. Et sachant que j'avais déjà eu une césarienne pour ma fille, et ça, c'était un premier point. Et le second, c'était, je sais pas si les médecins m'ont dit ou si c'est moi après coup qui me suis dit finalement c'était pas plus mal parce que au moins je m'en souviendrai. C'est pas fantomatique. Moi, au début, j'aurais souhaité une césarienne et endormie, sans que je me rende compte de rien. Et en fait, non. En fait, il fallait que je ressente les choses aussi pour pouvoir après les assimiler et peut-être avoir un deuil, un vrai deuil. Enfin, en tout cas, que ce soit pas fantomatique, quoi. Que je puisse me souvenir de tout ça
et de
ce qui s'est passé. Mais ça, c'est un processus qui se fait au fur et à mesure des mois qui se sont passés avant qu'on prenne cette décision. Mais c'est vrai qu'au début, on a un peu envie que ce soit... qu'on tourne la page, et tourner la page, c'est... s'il y a un problème, retirez-moi ça. Et en fait, on passe de retirez-moi ça, je vais aller jusqu'au bout pour mon bébé. Donc le ça devient un bébé, tout ce processus, et qu'il a été pour moi, mais qu'il a aussi été pour mon mari, qui forcément, par la force des choses, voit les choses... au début avait plus de recul parce qu'il avait pas son corps qui changeait et qui voulait me préserver, donc l'idée au début c'était prenons toutes les décisions pour que cette histoire devienne juste un vague souvenir et un lointain souvenir, et en fait c'était un bébé et il fallait qu'il fasse partie de notre vie et qu'il fasse partie de notre histoire, et donc il fallait qu'il trouve sa place et qu'on puisse l'accompagner jusqu'au bout, pas pour le considérer quoi. Et donc
pas faire comme si ça n'avait pas existé.
Exactement. Donc accoucher naturellement et être présent et pas dans les vapes avec une anesthésie, c'est aussi prendre conscience que il a existé.
Après l'accouchement, est-ce que vous avez rencontré votre bébé ?
Alors ça aussi, c'est quelque chose dont on avait beaucoup discuté en amont. On n'avait pas forcément d'avis, donc encore une fois, on a eu la chance d'être très bien entouré d'expériences d'autres parents. On a eu l'impression que c'était bien de le rencontrer et que, comme je disais, c'est accoucher par voix basse, c'était le faire exister et le rendre réel, et donc lui dire au revoir et le prendre dans les bras, c'était aussi une manière pour le couple de se rendre compte que c'est pas juste un cauchemar, c'est un cauchemar éveillé, que c'était quand même un petit enfant, et que là, pour le coup, c'était important pour nous de le voir et de lui dire au revoir et d'avoir un temps pour nous trois. Et là aussi, c'est très bien pensé par le corps médical, en tout cas là où j'étais. Ils prennent le bébé. Quand on est prêt, ils nous apportent notre bébé. Et notre bébé est habillé. Il a un petit bonnet. C'était un bébé endormi, mais c'était un joli bébé. Et c'était génial de pouvoir lui dire au revoir et de le serrer dans nos... c'est difficile. un verre d'eau. C'était important de pouvoir le voir.
Le rencontrer.
Le rencontrer, lui dire au revoir, lui dire pardon. Et de rendre les choses réelles aussi pour mon mari.
Oui, puis il y avait quelque chose d'un décalage entre vous et lui. Voilà, tant que votre bébé n'était pas là, vous disiez qu'il était plus à distance.
Le décalage, il est de toute façon, pour l'avoir vécu aussi avec nos enfants en pleine vie, il y a toujours un décalage entre le papa et la maman par la force des choses. C'est pas... C'est logique, on sent un bébé en nous pendant 9 mois, il a beau toucher le ventre, c'est quand même que quand il apparaît, qu'il peut le prendre lui-même dans les bras, que ça devient vraiment concret, quoi. Et donc, de la même manière, on a eu la chance d'être en phase tout le long. Donc pour lui, c'était quand même réel, mais ça le devenait d'autant plus quand lui aussi, il a pu lui dire au revoir, et en le voyant, et en lui touchant la main. Enfin, nous, ça nous a aidé vraiment de le voir et de lui dire au revoir. Et on pensait le voir une seconde fois. Et en fait, on nous a un peu déconseillé, après coup, le lendemain, parce que c'est un peu, c'est très morbide, mais bon, le corps change, voilà. Donc c'est ce petit bébé qui était encore chaud et adorable se transforme forcément un petit peu, et donc cette image un peu parfaite, fallait peut-être rester là-dessus, ne pas trop pas aller plus loin que ça, et ça n'aurait pas apporté grand-chose d'ailleurs de le voir après. Et ensuite, j'ai été raccompagnée dans la maternité, enfin avec les chambres, avec les autres mamans. Mmh. Alors, ils prennent soin quand même de nous mettre une chambre au fond du couloir, parce que la nuit, évidemment, n'est pas très heureuse, puisque vous n'aurez pas de bébé qui reviendra de la nurserie ou qui sera à vos côtés si vous allaitez. Vous êtes à la maternité, mais sans bébé. Néanmoins, être traitée comme une maman, c'est toujours important. Donc là, encore une fois, j'étais ravie de pas être en gérontologie ou ou à la, voilà, avec les appendicites. Donc d'être traitée comme une maman avec les sages-femmes et puis du coup, de quand les infirmières venaient, elles savaient pourquoi pourquoi j'étais là, et il n'y avait pas de phrases gênantes, j'avais pas besoin d'expliquer mon cas.
Après ce temps, voilà, de l'accouchement, de l'hospitalisation en maternité, comment s'est passé le retour à la maison ?
Comme j'ai une fille aînée, c'était difficile parce que je savais qu'il fallait que je m'imposais d'essayer d'être à la hauteur. Je pouvais pas me permettre de rester trop longtemps à l'hôpital. Bon, de toute façon, j'en avais pas forcément très envie. Mais voilà, il fallait que j'essaie de tenir un peu le coup pour elle. Et donc, elle était prise en charge par ses deux grands-mères. Et donc, j'ai tenu toute la journée, dès le matin, je suis rentrée. Et pour le déjeuner, j'ai déjeuné avec les deux grands-mères, mon mari et ma fille. On déjeune, c'est sympa. Et voilà. Et donc, j'ai eu une journée un peu compliquée, quand même. Et fin de journée, j'étais un peu fatiguée. Et évidemment, ma fille devait bien ressentir quand même que... Enfin, elle ressentait bien qu'il y avait quelque chose de pas tout à fait normal. Je lui ai demandé de venir dans la chambre pour la rassurer, lui faire un énorme câlin en lui disant que maman était très triste, mais que c'était pas du tout à cause d'elle. Et que le bébé, parce qu'elle savait que j'étais évidemment enceinte, puisque les enfants savent tout, et que de toute façon on lui avait dit, parce qu'au début on croyait vraiment que ça allait bien se passer. Donc mon ventre grossissait et on disait qu'effectivement il y avait un petit bébé. On n'insistait pas lourdement sur le sujet parce qu'on avait beaucoup d'examens, mais on lui disait bien qu'il y avait peut-être un petit frère, une petite sœur. Et donc je lui dis voilà, que le bébé était parti. Et donc elle m'a serré très fort dans ses bras, en silence. Elle a compris que j'étais vraiment très fatiguée et qu'il fallait partir tranquillement. Et en ressortant, elle a pris son... C'est ma mère qui m'a raconté, parce que je ne l'ai pas vue. Mais elle a pris sa poupée ou son ours qui était dans sa petite poussette. Elle l'a mis derrière un coussin et elle est repartie avec sa poussette vide. Donc elle avait compris que voilà, il n'y aurait pas de bébé. Et le lendemain, je me suis réveillée après une nuit triste, mais un peu... je pense que j'ai bien dormi, étant un peu exténuée. Et le lendemain, je me suis réveillée en me disant que voilà, maintenant, il fallait avancer. Et que j'avais une fille qui avait envie de jouer et que je n'allais pas la priver de ça. Et que c'était elle qui allait aussi nous aider. Et c'est comme ça qu'on a commencé dès le lendemain à remonter la pente. Après, c'est le temps d'un deuil, donc ça prend le temps que ça doit prendre. Avec juste cette petite chose, c'est que comme on ne savait pas si c'était génétique et ça venait de nous, ou si c'est une erreur génétique tout seul, on a fait le choix de faire une autopsie pour éventuellement protéger l'enfant suivant.
Ce qui a amené, vous êtes déjà, des incertitudes pour la suite.
Voilà, vous êtes déjà dans l'avenir, puisque vous êtes obligé de prendre une décision pour celui-là, mais on doit penser à l'avenir. Est-ce qu'il y aura un autre enfant? Est-ce qu'on fait des tests? Est-ce qu'on fait pas de tests? On fait une autopsie, on n'en fait pas. Est-ce qu'on aura envie d'avoir un autre enfant ou pas? Donc on est tout de suite déjà, on nous pousse à être tout de suite dans la projection. Et donc on a fait le choix de faire une autopsie. Et donc il y a ce temps-là aussi qui fait qu'on est un peu obligé d'attendre, et on attend patiemment les résultats. Et puis vient le moment des résultats, et en l'occurrence, nous, on a eu de la chance, c'était pas nous, donc ça veut dire que pour un prochain bébé, il y avait aucune raison, on n'était pas obligé de passer après par la FIV pour protéger génétiquement un autre enfant à venir. Et voilà, donc, mais on a fait le choix d'autopsie en se disant que c'était un petit ange qui protégerait ses autres frères et sœurs à venir, et en l'occurrence, on a eu la gynécologue qui m'a accouchée, m'a dit qu'elle avait fait des autopsies pour des bébés et que c'était fait dans un total respect de l'enfant. Donc ça nous avait rassurés. Après, on n'était pas là, donc on ne sait pas. Mais bon, on a décidé de faire confiance au corps médical jusqu'au bout.
Depuis, vous avez eu un autre enfant.
Depuis, j'ai eu un autre enfant. Et donc, je me suis retrouvée enceinte à la même période. Donc, j'ai refait. Donc, c'était compliqué parce que les 5 premiers mois et demi étaient les mêmes, avec en plus, pareil, hein, beaucoup de. Un gros suivi. Alors, j'ai pas eu d'échographie du cœur en plus, mais bon, avec un gros suivi, forcément. Des médecins très prévenants et qui m'avaient déjà suivi pour mes 2 premières grossesses. Donc, ma 3e grossesse était plein de médecins très sympas. Qui voulait prendre soin de moi et de mon bébé. Même si ce bébé était en pleine forme, mais il est vrai que jusqu'au 16 mars, date de notre fils Arthur, jusqu'à cette date, je n'ai pas eu une grossesse forcément très épanouie. Et à partir du 16 mars, jusqu'à la naissance d'Augustin, le 2 juillet, là, c'était heureux et joyeux. Parce qu'il n'y avait plus de lien entre les deux. Et dans mon entourage, on m'a dit « Ah, ça va être la même grossesse, mais ça veut dire que ton autre enfant va naître comme aurait dû naître Arthur. » Et donc, j'avais expliqué, je me dis « Bah non, Arthur, il est né le 16 mars. Il n'est pas né le terme d'Arthur, j'en sais rien. J'en sais rien, c'est pas intéressant. » Comme la date de terme de ma fille Aurore et de mon fils Augustin, je connais pas les dates des termes, je les ai oubliées. En revanche, je connais leur date de naissance. Et donc, pour mon fils Arthur, voilà, c'est le 16 mars.
Merci Marie. Ce que je vous propose, c'est qu'on rejoigne Dominique Vernier dans le salon d'à côté, voilà, qui a travaillé longuement en maternité. Bonjour Dominique.
Bonjour.
Donc vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute, spécialisée en périnatalité. Vous avez travaillé pendant de nombreuses années à la maternité de l'hôpital Robert Debré à Paris et vous exercez maintenant en libéral. Dans mon cabinet, je reçois et j'accompagne beaucoup de parents, comme Marie, en individuel ou en couple, qui vivent ces situations de perte et de deuil périnatal. Tout d'abord, Dominique, qu'est-ce que c'est que le deuil périnatal ?
Alors, le deuil périnatal concerne des parents dont l'enfant est décédé pendant la grossesse, à la suite d'une interruption médicale de grossesse. Et vraiment, je ne sais pas si c'est le moment de le dire, mais en tout cas, merci à Marie de nous avoir apporté son témoignage, parce que c'est extrêmement émouvant et c'est tellement... je crois qu'il y a peu de choses à dire, en tout cas, de ce vécu, puisqu'on a quelqu'un qui nous l'a bien expliqué, bien ressenti. C'est la perte d'un enfant, ce qui n'a pas été si simple au départ de le comprendre comme ça. Ça peut être donc une interruption médicale de grossesse ou une mort fœtale, une utéro, au moment de la naissance aussi, et jusqu'à 28 jours après la naissance. Donc c'est aussi le décès de ces tout petits bébés, dans les services de néonat en particulier. Et je crois que c'est une épreuve pour laquelle personne n'est vraiment préparé. Que cette émotion qu'on a eue, ces émotions sont vraiment majeures.
Bien sûr. Ça concerne à peu près combien de bébés ou de familles par an en France ?
Alors, environ, je dirais 14 000 naissances. C'était les chiffres il y a quelques temps, donc ça doit être à peu près encore...
Oui, donc c'est pas anecdotique, ça concerne quand même un certain nombre de parents. Vous dites bien que ça concerne différentes situations. Marie nous a parlé principalement de la question de l'interruption médicale de grossesse suite à un diagnostic anténatal, que ça peut être une mort fœtale in utero, donc où il va y avoir une découverte de la mort du bébé dans le ventre de la mère. Il y a les situations aussi de fausse couche précoce ou tardive. Alors ça, on en a parlé dans un épisode de parentalité avec le docteur Vada. Quelles sont les spécificités de ce deuil périnatal ?
Alors, je dirais le plus difficile, c'est l'absence de traces. C'est-à-dire que pour un deuil, il y a des souvenirs. La personne a vécu un temps, qui peut être variable, mais en général, c'est effectivement, on peut se rappeler des événements en commun et l'entourage a rencontré la personne qui est décédée. Pour ce bébé-là, alors ça change un peu aujourd'hui, les familles sont autorisées, les grands-mères peuvent venir voir le bébé, c'est plus rare les grands-pères. Donc la place de ce bébé, ça va être compliqué pour la famille de lui donner une place. Et je crois que c'est ça qui a été, peut-être maintenant aujourd'hui ça change, mais ça a été ça le plus difficile. C'est-à-dire, et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on a davantage dans faire des souvenirs. C'est-à-dire un petit doudou, la mèche de cheveux, le petit bracelet, mais tout ça, ça s'est construit au fur et à mesure. Et au départ, on pensait bien faire que de ne pas montrer le bébé, par exemple. Alors ça reste toujours difficile, je crois que bien accompagné c'est faisable, mais ça reste effectivement un moment extraordinaire, puisque on l'a entendu tout à l'heure, c'est un beau bébé, et il peut ressembler à son frère ou sa sœur s'il y a eu un enfant précédent. Et en même temps, il va rester très peu de choses. Et cette fabrique des souvenirs au moment de cette naissance, qui est aussi une naissance d'un bébé mort, et là aussi, tous ces termes-là ont mis beaucoup de temps à être acceptés par les équipes, mais aussi par les familles. Et on a peu parlé de l'entourage, mais l'entourage, par exemple, ne sait pas comment faire. Et cette douleur partagée, personne n'en parle. Donc ça évolue, mais ce n'est pas encore gagné.
On va revenir sur cette question-là. En tout cas, Marie nous a bien décrit les différents temps. Le premier temps, qui est celui de l'annonce, du choc, un peu de la sidération. Alors pour vous, il a été progressif. Dans d'autres situations, ça tombe comme un coup près. Là, je pense aux situations de mort fœtale in utero. Et puis le temps de la décision. Voilà, il y a le temps de l'annonce et puis le temps de la décision. En tout cas, dans le cadre de l'IMG.
Oui.
Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là pour les parents ?
Alors, je crois que ce qui est commun à tous les deuils, c'est ce choc. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est peut-être pour ça qu'on peut parler de deuil périnatal, c'est que cette annonce est déjà le démarrage peut-être d'un deuil à venir, puisque quelquefois, ça peut aller très vite dans la tête des parents, c'est de dire « Ah non, mais c'est pas possible, s'il y a un problème, on le garde pas. » Ce qui est totalement après oublié. Mais ce moment de l'annonce Il est terrible, c'est un vrai choc, un vrai traumatisme, et c'est en ça où je pense qu'il faut vraiment un accompagnement très très fort pour aider à ce moment-là, parce que c'est l'effondrement, c'est-à-dire que tout était merveilleux, ce bébé, on venait voir à l'échographie, et là, ça ne va plus. Et sur le moment, c'est je peux pas, j'en veux pas. Et puis, petit à petit, il va falloir remettre du sens finalement à ce qui est en train de se passer. Alors ça, c'est dans ce cadre-là.
Dans ce que vous disiez, là, c'est j'entends, et c'est ce que nous a dit Marie aussi, le ça, ou j'en veux pas.
C'est voilà, ça. C'est le rejet.
Ce bébé devient une chose ou quelque chose de complètement abstrait. Et comment, vous disiez aussi, Marie, de ce ça, on revient au bébé. Mmh. Voilà, on revient à une représentation de ce bébé qu'on a attendu, qu'on aime déjà. Voilà.
Ce moment-là, où finalement c'est très difficile de penser à ce moment-là. Mmh. Donc le couple, il est totalement désemparé, perdu, et alors ça c'est peut-être l'expérience que j'ai pu avoir avec les médecins avec qui j'ai travaillé, je leur disais, mais c'est pas la peine de leur parler à ce moment-là. Ils n'entendent pas, ils peuvent pas entendre. Ils sont pas dans ce moment-là. Dans ce moment-là, c'est pas possible, le monde s'écroule. Alors, il parle beaucoup de ça aussi, le vide, tout d'un coup de se sentir abandonné, de sentir un gouffre devant eux et de se dire, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Donc ça, c'est effectivement l'annonce pour la pathologie grave et puis pour effectivement la mort in utero. La mort in utero, c'est aussi extrêmement violent. Et peut-être aussi que cette circonstance-là, c'est une situation paradoxale. C'est-à-dire on dit beaucoup que le paradoxe peut rendre très malade psychiquement. Et là, tout est contradictoire. Un bébé attendu, un bébé voulu. Ce bébé même pour lequel peut-être on s'est dit « Oh, c'est pas le moment, peut-être c'est trop tôt ». C'est le bébé qu'on veut, c'est celui-là qui est, et c'est celui-là qu'on perd quand effectivement les choses vont aller mal. Donc il y a vraiment un moment comme ça de comparable à l'annonce de quelqu'un qui meurt et auquel évidemment on pense et qu'on n'a pas imaginé que ça pouvait arriver, même si c'est des personnes très âgées.
Du coup, comment elle se relance, cette machine à penser, voilà,
qui, là, avec du temps. Ça, je crois que Marie l'a très très bien dit, il faut vraiment donner du temps. Donner du temps, et dans un moment où effectivement, on essaye d'aller... Enfin, les équipes vont vite pour essayer d'avancer au mieux et de pouvoir donner des éléments. Et en même temps, vous disiez aussi que ça avait été long pour vous. C'est-à-dire que c'est en ça où on est vraiment dans des urgences psychiques. Hein. Je crois que c'est cet étayage et ce soutien qu'il faut apporter aux parents à ce moment-là.
Mais rétrospectivement, ce temps nous a permis aussi de penser, de réfléchir, et de réfléchir à comment faire au mieux
pour votre bébé,
pour notre bébé, puis pour notre fille, et pour se reconstruire.
Tout à fait.
Et donc, rétrospectivement, ce temps qu'on n'avait pas choisi, hein, évidemment, mais il nous a permis aussi, mon mari et moi, de se raccorder, de tenir à la fin le même discours et comme donner un prénom. C'était pas évident au début pour moi, mais pour mon mari aussi. On n'avait pas envie de.
Mais ce que vous disiez, Marie, hein, moi, j'imagine Dominique, vous aussi, ce que vous avez pu entendre chez les parents, c'est tout de suite, voilà, on veut un coup de gomme magique.
Oui, faut tout effacer.
Voilà, faut tout effacer. Mais voilà, ça, c'est pas possible. Et en tout cas, les soignants, les équipes savent l'importance justement de ce temps pour se réapproprier le bébé, se réapproprier aussi ce cheminement, voilà, remettre cette machine à penser en route et s'approprier ce qui est en train de se passer, ce qu'on est en train de vivre, pour pouvoir vivre avec après.
Et en fait, je dirais, c'est pour essayer de devenir des bons parents, finalement.
Oui, ce deuil, c'est compliqué, c'est aussi parce que c'est pas que la perte du bébé, c'est aussi une atteinte extrêmement terrifiante, enfin pour la jeune femme, c'est une perte narcissique aussi d'elle-même.
Blessure narcissique.
Cette blessure, qui est vraiment, alors pour le coup, là, on sait ce que on peut se rendre compte de ce que représente une blessure narcissique. C'est que ça atteint sa fonction maternelle. Alors, le fait d'avoir déjà un enfant aide terriblement, parce que vous étiez déjà maman, de toute façon.
Ça, je l'ai moins ressenti, cette douleur narcissique, parce que justement, j'avais déjà un enfant.
C'était une force pour vous.
Ouais. J'imagine, effectivement, quand ça arrive à des parents qui sont, pour qui c'est leur premier enfant, ça doit être très compliqué, effectivement, de se dire, mais en fait, je suis pas capable, alors que ça n'a rien à voir. Mais nous avions déjà cette chance et qu'on avions déjà un enfant, donc on a évité ça. En revanche, j'ai, comme douleur, j'ai plus, que je peux encore avoir parfois, c'est la culpabilité. Mais culpabilité du geste. Mon mari n'a pas ce sentiment. J'ai pris une décision, mais est-ce que, et si jamais, en fait, tout allait bien? Je vivrais avec ça toute ma vie, même si...
Il y a des éléments objectifs qui soutiennent quand même la décision que vous avez
prise. Mais au moment des résultats, d'ailleurs, de l'autopsie, je revois le médecin qui me dit « Ah, mais non, en fait, il n'y avait pas ça. » Mais il y avait ça, et j'ai presque un soulagement de me dire, mais attendez, enfin, dites-moi qu'il y avait quelque chose, parce que vous pouvez pas me dire en plus que finalement, ça aurait pu se soigner. S'il vous plaît, parce que je peux plus revenir en arrière, donc, je vais pas dire inventer quelque chose, mais me laissez pas avec ce doute, quoi.
En tout cas, vous dites bien, Marie, voilà, l'importance quand même des informations médicales dans la prise de décision et du positionnement aussi des soignants dans le cadre du diagnostic anténatal, de l'interruption médicale de grossesse.
Oui, quelquefois même, pour voir le bébé, il y a aussi de pouvoir voir une malformation quand il y en a une visible. Parce que ça aide aussi. C'est-à-dire, ça aide aussi de se dire qu'on ne s'est pas trompé, justement. Et ça rassure.
Vous parliez de cette culpabilité. Alors, vous avez parlé, et on a senti aussi toutes les émotions, même en revenant sur votre histoire. Marie, évidemment, la culpabilité, on l'entend beaucoup chez les mamans, chez les papas, à différents moments, à différents degrés. Voilà, le sentiment de ne pas avoir protégé l'enfant, le sentiment de l'avoir tué aussi, d'avoir choisi de lui donner la mort.
Oui, cette violence-là, elle est terrible. Oui, ça, je pense que ce geste-là, dont vous avez aussi très bien parlé, parce que ce n'est pas toujours facile d'en reparler. Et peut-être ce que vous avez dit, qui n'est pas si fréquent, je trouve, on peut le dire, par exemple, les psys, on essaye de vous dire que c'est justement un accord. C'est-à-dire qu'on est tous là, ensemble, autour de vous, pour être en accord avec cette décision à prendre, et que c'est une décision médicale, puisque, à l'inverse, on ne pourrait pas demander une interruption à ces termes-là pour autre chose qu'une décision qui est déjà médicale. Mais ça ne suffit pas pour atténuer la culpabilité d'avoir accepté ou d'avoir demandé. Et en même temps, ce que vous disiez, je trouve, qui est très très bien dit, c'est de dire que j'avais besoin que ce soit moi qui décide, pour pouvoir aussi assumer quelque chose après de cette décision dans ma vie de couple, de femme. Et ça aussi, c'est pas toujours admis dans les équipes soignantes. Les équipes disent, on va les protéger, on va les aider, on va faire à leur place. Mais qui peut faire à votre place? Personne. De la même façon que la césarienne dont vous parliez, c'est... Ben non, une césarienne, ça serait dommage, on va dire, puisque c'est une cicatrice sur l'utérus, que ça peut aussi empêcher les grossesses suivantes, ou en tout cas, pas les faciliter. Et c'est pareil, c'est-à-dire qu'on vous demande aussi de faire tout ça. D'ailleurs, je me suis demandé ce que ça avait provoqué pour vous, le fait d'accoucher, alors que vous aviez eu une césarienne. Et vous avez pour Augustin, c'est un accouchement
Pour Augustin, j'ai encore eu une césarienne d'urgence. Enfin, mes trois accouchements, c'était un fiasco. Alors, avec deux beaux bébés en pleine vie, mais une catastrophe de césarienne d'urgence. Voilà. Et donc, en fait, le seul accouchement par voie basse que j'ai eu, c'est pour Arthur. Et c'est vrai que pour Augustin, j'ai vraiment expressément dit, s'il vous plaît, j'aimerais accoucher vraiment par voix basse pour connaître ça et connaître la joie de l'accouchement naturel et classique. Mais ce n'était pas possible. Ça a été difficile, ça, d'avoir encore besoin d'une césarienne pour mon fils. Néanmoins, je me suis dit que le plus important, c'était quand même de le voir dans mes bras gigoter. Et que donc, en fait, si on avait besoin d'une césarienne, ce sera la césarienne et que c'est pas grave.
En tout cas, l'accouchement fait partie du processus de maternité. Et vous avez bien dit, Marie, l'importance qu'on vous considère comme parent de cet enfant, même si cet enfant, même si Arthur n'allait pas vivre, vous êtes devenu parent pour la seconde fois avec Arthur, et que l'accouchement, fait aussi partie de ce processus et de l'appropriation aussi de ce sentiment de parentalité.
Et vous parliez des souvenirs. Je n'ai pas récupéré les photos après en sortant de l'hôpital, parce qu'on peut récupérer le bracelet, les photos. Comme je l'ai vu, ça m'a suffi. Mais c'est vrai qu'il y a des parents qui demandent à récupérer des photos.
Alors, en effet, Dominique, quelles sont les pratiques aujourd'hui des équipes soignantes pour essayer de donner une trace du passage de ce bébé?
Il y a beaucoup de choses qui sont proposées et s'ajuster au plus près de ce que vont pouvoir décider et souhaiter les parents. Il faut qu'ils trouvent leur façon de faire, je crois. C'est plus important que d'avoir tout fait. Et ça a été des questions qu'on s'est beaucoup posées, parce que est-ce que on coche toutes les cases, quoi? Est-ce qu'il faut les photos? Est-ce qu'il faut la mèche de cheveux? Et finalement, ça dépend vraiment de l'histoire de chacun, de ce qu'ils vont projeter ou pas avec ce bébé. Et finalement, leur dire qu'il ne faudra pas, il n'y aura pas beaucoup de temps et que ça, qu'il ne faut pas qu'ils regrettent. Mais comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils vont regretter ou pas? Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a les photos, bien sûr, et ça, aujourd'hui, avec les portables, peuvent faire aussi leurs propres photos. Il y a des photographes qui font des photos très belles et qui peuvent intervenir dans certaines maternités. La petite mèche de cheveux, le petit bracelet est très touchant, parce que souvent, c'est quelqu'un de l'équipe qui va donner le petit bracelet, et puis elle le garde. Je crois qu'il y a un moment où... alors, il y a l'association Spama, parce qu'on en parlera tout à l'heure, qui propose une petite boîte où on peut mettre ce qui appartient à ce bébé qui n'a pas vécu longtemps, ou qui n'a pas vécu. Et c'est mettre effectivement des petites choses, un petit doudou. Ça peut être aussi le frère ou la sœur qui donne son doudou à ce bébé. Enfin, fait un dessin, qui va accompagner ce bébé.
Il y a plein de choses qui sont possibles et c'est important que les parents sachent que tout est ouvert.
Tout est ouvert, voilà.
Et
tout est ouvert et qu'il
n'y
a pas une bonne ou
une
mauvaise façon de
choses.
Faire. Il y a ce qu'on peut faire et c'est important d'y penser. Et là aussi, il faut se donner du temps pour pouvoir penser à ce qu'on va préparer pour ce bébé.
Et souvent, il y a cette question de voir ou non le bébé.
Oui.
Alors, vous, Marie, vous nous avez bien dit que ça a été évident, en tout cas très important, de rencontrer votre bébé et de lui dire au revoir.
C'était pas évident au début.
Oui.
Surtout, oui. Vous n'êtes pas préparé à ça, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez. Devenir parent, c'est pas voir son enfant mort. Donc en fait, vous ne savez pas dans quoi vous vous embarquez et donc vous essayez de réfléchir au mieux avec à deux, dans la mesure du possible, à deux, essayer d'être d'accord à deux et de trouver la meilleure solution qui convient aux deux. Et en écoutant, nos familles nous ont dit « mais vous pouvez pas le voir, ça va vous détruire ». Donc on n'a pas écouté nos familles, on a écouté plutôt la psychologue qui nous suivait tous les deux. Et on ne regrette pas, mais en même temps, peut-être qu'on a écouté les deux avis et qu'on a préféré le sien, mais on a aussi écouté le corps médical. On s'est dit, 30 ans d'expérience dans le domaine versus nos parents, faut écouter ceux qui savent et ceux qui veulent juste nous protéger et qui ne pensent pas mal, mais qui finalement vont mal penser sur ce point. Et le voir, ça nous a aidés à lui dire au revoir et à être de bons parents. En fait, c'est comment, dans une situation pas facile, avec une issue dramatique, comment on peut essayer de faire en sorte de quand même être à la hauteur de cet enfant et essayer de lui donner le maximum, donc le maximum pour nous, mais après chacun mettra son curseur, mais pour nous c'était presque oser le voir, oser l'affronter, lui donner le peu de tendresse qu'on pourra lui donner en le prenant dans nos bras, l'accompagner, lui donner un prénom pour toujours pouvoir se souvenir de lui. Et d'ailleurs, c'était plus facile pour moi aujourd'hui de vous dire Arthur que vous dire celui qui est entre Aurore et Augustin.
Ça lui donne une place.
Lui donner une place, mais le mettre dans le livret de famille. C'est très personnel, ça reste un petit livret qu'on met dans un placard la plupart du temps, mais il a sa place au sein de notre famille. Il a vraiment sa place. Maintenant, on n'élève pas nos enfants avec Arthur comme frère avec sa place. Enfin, ils sont deux, ils sont trois dans...
Oui, cette question.
Ils sont trois dans notre tête, mais ils sont deux. Aurore n'a qu'un frère.
Oui.
Oui, cette question, combien avez-vous d'enfants?
Alors, en fonction de
qui est en face.
De qui est en face, je dis trois ou deux. À l'école, je dis deux. pas raconter,
pour pas raconter votre vie.
Ma vie intime.
Donc là aussi, c'est vraiment une question personnelle, totalement, singulière, et chacun va y trouver la réponse qui sera confortable pour lui.
Et il n'y a pas de mauvaise réponse.
Pour revenir sur la question du fait de voir le bébé, en tout cas, en effet, les équipes de maternité savent aujourd'hui que c'est une étape qui est importante, qui n'est pas obligatoire.
Qui n'est pas obligatoire.
Mais j'imagine que, comme moi, vous n'avez jamais rencontré de parents, Dominique, qui ont regretté de voir leur bébé.
Voilà, ouais. Non, les parents ne regrettent pas, et les équipes, je crois, enfin, les sages-femmes ont beaucoup appris des parents, accompagnent vraiment bien ce moment-là. On est amené à en parler, en tout cas dans l'interruption médicale de grossesse, au moment où on organise les choses. Et du coup, ce n'est pas le moment. Et moi, j'avais tendance à dire aux parents, à ce moment-là, laissez venir, ça viendra, vous verrez, quand vous y serez. Parce que quand on y est, c'est naturel pour une femme, quand elle accouche, de voir comment est ce bébé.
Oui, que ce choix, il va évoluer
dans
le temps.
Et il peut être variable. Là, vous disiez, c'est tant mieux que vous avez pu être deux. Je crois que c'est vrai que c'est très important, quand il est là, que le père puisse être présent, parce que c'est compliqué de raconter ce qui s'est passé. Mais en même temps, s'il ne peut pas, ou si à l'inverse, la maman ne peut pas, le père peut aller voir le bébé et pas la mère. Chacun peut trouver aussi sa façon de faire différemment. De la même façon que le temps du deuil, il est variable pour chacun, que la douleur peut venir plus tard, elle pas forcément sur le moment. Sur le moment, il faut faire face, alors on tient, pardon, des mois quelquefois, et puis un jour, il faut pouvoir sortir cette douleur de soi.
Bon, et puis après, vous nous avez parlé, Marie, du retour à la maison, de l'après. Alors, la question des examens médicaux, de l'importance de donner du sens, de pouvoir donner du sens à ce qui se passe. Vous parliez aussi de la question de tous les rituels, alors les funérailles, qui peuvent être importants dans certaines familles. Il y a ces questions-là, parfois, du devenir du corps. Voilà, s'il y a des funérailles, les parents vont récupérer le corps de leur enfant. S'il n'y a pas de funérailles, c'est l'hôpital qui va s'en occuper,
c'est une crémation.
Mm-hmm. Donc voilà, ça c'est important aussi que les parents soient informés de cette crémation, de tout ce processus, de comment les choses vont se passer.
Là aussi, c'est une question de temps, de pouvoir s'organiser, de pouvoir penser tout ça. C'est vrai que sur le moment, très souvent, les couples n'ont pas eu à s'occuper d'un défunt. Donc du coup, comment faire, où aller, enfin bon, il y a toutes ces démarches qui prennent aussi du temps. Et effectivement, c'est sûr que les rituels aident énormément.
Nous, c'était compliqué parce que le fait de décider de faire une autopsie, ça veut dire que les funérailles auraient été forcément après l'autopsie. Il pouvait y avoir jusqu'à 6 mois.
Dans ça, c'est vrai que ça dépend des endroits.
Et donc, on s'est dit, mais on ne va pas organiser des funérailles 6 mois plus tard. Enfin, ça devient...
En tout cas, dans votre temporalité à vous, c'était inconcevable.
Ah, c'était inconcevable. Mmh. Et on a décidé de ne pas faire de funérailles parce que c'est un enfant qui, malheureusement, n'aura rencontré personne. Et personne, surtout, ne l'aura rencontré. On avait cette pudeur de pas organiser un événement où les seules personnes qui auraient été pleurées, c'est mon mari et moi. Et que ça aurait été très compliqué pour notre entourage de pleurer un enfant que personne n'aura rencontré. C'est vraiment très personnel, donc je ne jugerai jamais personne. On y voyait d'une certaine forme d'indécence et on avait besoin d'une vraie pudeur. Voilà, quelqu'un allait mettre un cierge ou avait une pensée en regardant un coucher de soleil ou quoi que ce soit. C'était suffisant pour nous. Et lui donner un prénom et qu'on nous parle encore de lui à des occasions diverses.
C'est ce qui
nous convenait.
En tout cas, en vous écoutant, Marie, moi j'entends aussi des parents qui ont fait ce choix de faire des funérailles et qui pour eux, ça a été le moyen de l'inscrire dans la famille. Vous, il y a eu d'autres moyens pour inscrire Arthur dans votre famille, voilà, que ça peut aussi passer par ça. Et puis lorsque l'enfant a vécu, voilà, quelques heures, quelques jours, parfois dans les services de néonatologie, là de fait,
là,
il va y avoir
on l'aurait fait.
Et de toute façon, un bébé qui a vécu, les obsèques sont obligatoires.
Oui, alors on n'est pas rentré dans le détail en effet du cadre juridique, mais en effet, ces enfants qui n'ont pas vécu n'ont pas d'existence juridique. alors qu'un enfant qui a vécu même quelques minutes, lui, voilà, aura une existence juridique. Mais la loi aussi a beaucoup évolué, parce qu'autrefois, on ne pouvait pas inscrire, voilà, faire cette inscription dans le livret de famille.
Il n'y avait pas de livret de famille non plus, alors que là, il ouvre un livret de famille, ce qui est aussi quand même...
Donc voilà, ce qui permet quand même de donner une place à ces bébés et ces enfants.
Et tout est possible sans être obligatoire, ce qui est aussi... et puis on peut y revenir, c'est-à-dire c'est rétroactif. Ça. On peut revenir avec le certificat d'accouchement et décider plus tard de l'inscrire. De
10,
de
15 ans après. Un couple que j'ai accompagné, c'était leur premier enfant. Ils n'avaient pas de certitude, voilà, c'était le doute s'ils allaient avoir d'autres enfants. Mmh. Et du coup, ils ne voulaient pas inscrire seulement un enfant mort sur leur livret de famille. Et ils l'ont fait une fois qu'ils ont eu d'autres enfants vivants. Vous nous avez parlé de l'entourage, alors voilà, Marie, bon, parfois des conseils pas toujours très adaptés, même s'ils se voulaient bienveillants, cette question de l'entourage est parfois un peu difficile pour les parents. Très.
Et les phrases un peu malheureuses, ah oui, moi aussi j'ai avorté, bon, en fait, c'est pas la même chose, moi j'avais pas prévu volonté, c'était pas du tout mon désir, enfin c'est et néanmoins une femme qui avorte va aussi avoir des traumatismes, c'est pas
et
du tout ce que je veux dire,
mais
je veux dire
c'est
ces espèces d'associations qui sont faites ou
toujours pour atténuer
exactement
et ou c'est pas grave, t'auras d'autres enfants.
Oui, la vie continue. Oui, bon, d'accord.
Oui,
merci.
Moi aussi, j'ai fait une fausse couche. Enfin, c'est.
Alors, voilà.
Ce qui n'enlève pas la douleur, mais c'est comme une sorte de. On va essayer de calmer ça.
Vous nous avez raconté, Marie, comment vous avez expliqué à Aurore ce qui s'était passé. Est-ce que c'est important de dire aux frères et sœurs, aux aînés, les choses?
Là, je crois qu'on a eu la bonne... Vraiment, vous nous l'avez bien dit. C'est très important. Les petits, à 2 ans, elle est capable de... Quelque part, je ne sais pas si c'est enterré, mais en tout cas, mettre son nounours sous le coussin. Je veux dire, c'est quelque chose qui est... Voilà, les petits ressentent et comprennent beaucoup plus que ce qu'on imagine.
Et ils imaginent des choses bien plus terribles que la réalité.
Et ils imaginent des choses bien plus terribles que la réalité. Et ils se sentent eux aussi très tôt coupables. De se dire, c'est parce que j'ai fait quelque chose que ça arrive. Il faut vraiment ce que vous avez dit. C'est-à-dire que vous étiez triste et elle n'était pas obligée d'être triste. Et il fallait juste que les choses...
Ça n'a rien à voir avec elle ou les autres enfants.
Elle y est pour rien.
Qu'elle y est pour rien, en effet. Parce que d'avoir un petit frère, une petite sœur, beaucoup de joie, mais ça peut être aussi beaucoup d'inquiétude. Donc voilà, la pensée magique de l'enfant peut l'amener à se dire, j'ai voulu que ce petit frère ou cette petite sœur disparaisse. Et quand il disparaît, se sentir en effet extrêmement coupable. Et puis l'enfant aussi a un rapport très différent des adultes à la mort. Voilà, il n'en perçoit pas la même chose. Donc, important de les rassurer, puis de les rassurer sur la santé de leur mère. Voilà, parfois, le fait qu'il y ait une hospitalisation, qu'il y ait eu quelques jours à l'hôpital...
Elle a peur, effectivement, au fond, une peur très légitime. Qu'est-ce qu'elle deviendrait si ses parents n'étaient plus là? Donc il y a une perception et il y a une compréhension de la disparition. Et c'est très important, peut-être aussi... les mots sont importants. Le mot mort, ils le connaissent et on n'ose pas le dire pour un petit bébé, c'est sûr. Mais en même temps, c'est ce qui se passe. Alors, il y a des petits livres aujourd'hui qui aident beaucoup pour...
En effet, il y a toute une bibliographie qui est de plus en plus fournie, et heureusement. Alors, je vais en citer quelques-uns, Léa n'est pas là, et Oscar et Léonard, des petits livrets qui ont été faits par l'association Petite Émilie, La vie de Gabriel ou l'histoire d'un bébé plume, de l'association Spama, et puis il y a le livre Si on parlait de la mort, de Catherine Dolto, et puis en fonction des âges, pour les 3-4 ans, Un petit frère pour toujours, Molly au paradis à partir de 5 ans, à partir de 7-8 ans, Quand je suis triste, ou La petite sœur du placard. Et puis, autour de 9-10 ans, Mon petit frère de l'ombre. Voilà. Mais il y en a encore plein d'autres. On peut trouver ces références sur le site de l'association Sparadrap, notamment. Juste un petit mot pour finir sur la grossesse d'après. Vous avez eu Augustin. Souvent, en tout cas, moi, ce que je peux observer et entendre chez les femmes, c'est la peur de l'oubli. Et puis, parfois, quelque chose d'un conflit de loyauté entre l'enfant perdu puis l'enfant qui arrive, peur de le remplacer, de l'oublier.
Il ne sera jamais oublié. Je crois que on le comprend à travers ce que vous avez pu dire, mais c'est effectivement une des peurs. Et au fond, l'entourage, c'est beaucoup de maladresse. Beaucoup de maladresse parce que la peur d'en parler, la peur de blesser, peut-être qu'il n'y pense plus. Et ce bébé d'après n'effacera jamais ce bébé qui n'a pas. Et le bébé d'après, ben, il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup dire aux mamans qu'il faut qu'elles rêvent de leur bébé et qu'elles ont le droit d'y penser, parce que la protection, c'est j'attends qu'il naisse et on verra. Ce temps de la grossesse, il est essentiel pour tous les bébés. Donc il faut les aider à réinvestir psychiquement dans la rêverie, mais c'est très important.
Le plus sereinement possible.
Et le plus sereinement possible, oui.
C'était sur le prénom, je vous disais sur ça, sur le fait de ne pas oublier, quand on a décidé de donner un prénom, si on avait un garçon, on voulait l'appeler Arthur. C'était ça, voilà. On nous annonce qu'on va avoir un garçon, ça se passe pas bien, mais est venu le moment de, et donc on lui donne un prénom, et quel prénom on lui donne? On s'est dit, bon, bah, c'était Arthur. Ouais, mais Arthur, c'est quand même un prénom, on aspirait à avoir un petit garçon courir sur la plage avec un Arthur, pas cette histoire-là, pour lui. Et puis après, on s'est dit, mais, ok, et si on choisissait un autre prénom? Et comme ça, on garde Arthur pour un autre petit garçon. On s'est dit, mais c'est impossible.
Oui.
C'est impossible. Arthur, c'est pour lui. Ça aurait été une fille, la question ne se serait pas posée. Mais là, c'était un garçon. C'est lui. Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Et jamais j'aurais pu appeler, en fait, Augustin Arthur. Jamais. Donc ça allait dans le sens de il a sa place, il a trouvé sa place et par aussi le prénom il a trouvé sa place.
En tout cas, vous nous avez bien dit, hein, Marie, comment tout l'accompagnement, toutes les étapes, le temps, voilà, permet justement aux vivants et aux morts de trouver leur place, voilà, et que chacun peut avoir sa place. Vous nous disiez, Dominique, l'importance que ses parents, que les parents ne restent pas seuls, ne restent pas isolés. Alors, il y a tous les soignants qui vont les accompagner le temps du diagnostic, de l'accouchement, mais qui est en effet parfois très court. Et puis, il existe plein d'associations.
Donc, vous avez cité...
Alors, on a parlé de SPAMA, il y a aussi l'association Agapa. Petite Émilie, Vivre son deuil, Naissance en deuil, nos tout-petits, mais voilà, il en existe encore plein d'autres.
Il y a aussi beaucoup de sites internet.
Oui.
Alors, je laisse, chacun y trouve...
Ces associations ont plutôt des sites qui sont bien, voilà, avec des informations justes. Il existe aussi, il y a une journée tous les ans qui regroupe un collectif d'associations qui s'appelle une journée, la journée Une fleur, une vie, qui est en mai, avec des actions sur toute la France pour permettre aux familles de célébrer leur tout-petit. Et puis, il y a la journée nationale du deuil périnatal qui est le 15 octobre. Est-ce que, Dominique, vous conseillez à tous les couples que vous accompagnez d'aller voir un psy? Est-ce que c'est obligatoire?
Alors, obligatoire, non, puisque comme tout ce qu'on a dit là aujourd'hui, je crois que rien n'est obligatoire. Je pense évidemment que ça peut aider. Peut-être par rapport à ce qu'on disait, de les aider à trouver leur place et de les aider à être... On n'a pas parlé de tout, évidemment, c'est compliqué, mais par exemple, ces mouvements aussi qu'il peut y avoir de... Alors, je vais être un peu choquante, de haine. C'est normal de détester ces femmes qui ont un bébé qui va bien, ou cette grossesse, ces femmes enceintes. Enfin, c'est des moments extrêmement violents, extrêmement douloureux pour ces femmes qui ont perdu leur bébé, de voir les autres qui y sont dans le bonheur. Bon, voilà. Mais ça permet, quand on voit un psy, de pouvoir dire tout ce qui vous vient et qui vous fait mal, pour après aller mieux.
À travers tout ce qui a été changé, je retiens, et vous nous l'avez bien dit, Dominique et Marie, l'importance de ce temps, temps pour se reconstruire, restaurer l'estime de soi, apprendre à vivre avec cette blessure du deuil périnatal. La blessure laisse une cicatrice, mais celle-ci peut ne plus être douloureuse ou moins douloureuse avec le temps. Également, chacun va tricoter son chemin suite à la perte d'un bébé. C'est un temps individuel, singulier, qui va se faire aussi par étapes. On a parlé, évoqué ces différentes étapes essentielles pour aller mieux après, voilà, pouvoir vivre de la manière la plus confortable possible avec cette histoire. Du temps aussi pour que l'enfant attendu et qui n'est pas là prenne sa juste place dans la famille. Et vous nous avez bien dit, l'importance d'être accompagné, de pas rester seul, et puis de libérer la parole sur la question du deuil périnatal, voilà, où la question de la mort et de la mort des tout-petits reste encore très tabou dans notre société. Je recommande souvent des lectures à mes patients. Marie, est-ce que, voilà, peut-être vous avez lu quelque chose qui vous a aidé sur la question du deuil périnatal?
Juste après, j'avais lu un témoignage. C'était un témoignage d'une maman. J'avais retrouvé des choses similaires et le couple a fait des choix que nous n'avons pas fait et que je ne regrette pas d'avoir, de ne pas avoir fait. Et je pense que c'est là où chaque histoire est bien différente et il n'y a pas de mauvaise chose. Il faut juste bien choisir avec sa personnalité parce qu'elle a fait des choses que je n'aurais jamais faites et inversement. Elle n'aurait pas aimé être moi, je pense.
Merci Marie. Dominique, est-ce que vous recommandez des choses à vos patients ?
Il y a évidemment le berceau vide de Marie-Josée Soubieu, qui a été un des premiers livres sur ce sujet-là.
Oui, et Marie-Josée Soubieu, elle organise d'ailleurs des groupes de, des groupes de parole, d'échanges entre femmes autour de la question du deuil périnatal.
Je trouve que les lectures, quelquefois, de livres pour les petits, dont vous avez parlé, ces supports qui sont finalement très tendres...
Aident aussi les adultes.
Ça aide les adultes, c'est-à-dire de se rendre compte qu'on peut en parler à des enfants. Et vous avez parlé de Léa n'est pas là, le fameux Au revoir Blaireau. Qui est un des premiers livres sur le deuil, mais qui est... c'est la perte d'un grand-père, mais ça... Il y a Falikou, qui est un joli livre, comme un conte africain d'un petit enfant qui part sur un chemin. Mais ça aide à je crois, être dans l'émotion de ce que représente la perte. Et ces mots de chagrin, de tendresse, ils sont essentiels, et on les emploie beaucoup moins. Faire le deuil, c'est un gros travail, et c'est très long.
Ouais. Moi, je recommande souvent Dans ces moments-là, qui est un livre qui est sorti récemment, qui s'adresse beaucoup aussi à l'entourage, explique à l'entourage ce dont peuvent avoir besoin les parents. Et puis, je pense à un podcast qui s'appelle Luna. Le premier épisode est sur la question du deuil périnatal. Et on entend d'ailleurs Marie-Josée Soubieu raconter ce qu'elle propose dans ses groupes de parole. Un immense merci, Marie, d'être venue partager avec nous votre histoire et celle d'Arthur. Merci beaucoup.
Merci à vous d'avoir écouté, si ça peut aider d'autres parents.
Merci beaucoup Dominique Vernier. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne, psychothérapeute périnatale et que vous exercez à Paris. Merci pour tout ce que vous avez partagé avec nous.
Merci à vous aussi.
Pour ceux qui nous écoutent, je vous rappelle que vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et nous écrire à l'adresse suivante podcastparentalité@gmail.com. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à noter et on se retrouve dans un prochain épisode.
You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator. Book guided tours, excursions, and more in one place. There are over 300,000 travel experiences to choose from, so you can find something for everyone. And Viator offers free cancellation and 24/7 customer support for worry-free travel. Download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app. Find travel experiences for you. Do more with Viator.